RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Peut-on dire que les Jeux Olympiques sont un moment sacré, relais de la flamme, grande cérémonie, podium, célébration des athlètes? Tous ces moments qui nous rassemblent sont-ils aussi une sorte de religion? On va en parler avec nos invités ce matin dans Je pense donc j'agis. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on restera dans la tradition. Vu qu'on va évoquer le patrimoine sportif, on évoquera le patrimoine culturel avec des événements qui rassemblent cette fois plus localement avec l'héritage folklorique et notamment les danses traditionnelles qu'on découvrira à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Ces images des Jeux Olympiques vous fascinent. Dites-nous pourquoi. Est-ce que vous avez l'impression que ces événements vous rapprochent peut-être de votre pays ou de vos sports préférés? Est-ce que vous faites facilement ce lien entre les célébrations et la religion? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et avec Madeleine Vatel ce matin. Bonjour Madeleine.
Bonjour à tous. Oui, les JO s'invitent maintenant dans toutes les conversations presque. Mais qu'est-ce qui fascine tant dans ces rites néo-païens? Eh bien, ce matin, restez avec nous. Ce n'est pas vraiment de sport que nous allons parler, mais plutôt de ce qui le met en scène. Le cérémonial de la flamme olympique et bientôt celui de la procession pour l'ouverture des Jeux sont-ils une sorte de liturgie populaire? Les épreuves sportives qui vont rassembler des millions de personnes devant et derrière leurs écrans font en tout cas vivre une véritable communion. Alors, même si ce n'est pas une pratique religieuse, il y a peut-être un désir commun dans ces événements sportifs, un mouvement pour aller vers quelque chose qui nous dépasse. Et dans cette émission, il sera question de héros, de mérite, de feu sacré, de procession, mais aussi de contemplation. Les Jeux Olympiques rendent-ils un culte aux nouvelles idoles ou célèbrent-ils de grandes vertus? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de décrypter ce matin.
Et pour en discuter, Madeleine, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir trois invités.
Oui, avec vous et avec nous, Raphaël Verchère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie dans l'Académie de Lyon. Vous consacrez vos travaux à l'éthique du sport. Vous avez récemment publié « Sport et mérite, histoire d'un mythe et philosophie du triathlon » aux éditions du Volcan. Avec nous également, Paul Demont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de la Sorbonne Université. Vous êtes l'auteur de La cité grecque archaïque et classique et l'idéal de tranquillité, publié aux éditions Belles Lettres. Dans ce livre, vous commentez justement des passages de Pindare et d'Aristophane. Nous y reviendrons. Et on parlera aussi des héros, comme vous le faites dans votre édition plus récente de Sophocle, Aias, Ajax, toujours aux éditions Belles Lettres. Et avec nous également Jean-Claude Soulage. Bonjour.
Bonjour.
Merci au Sud de l'Orient qui vous accueille. Vous êtes sémiologue des médias et professeur émérite à l'Université Lyon 2, membre du Centre de recherche Max Weber. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur les rhétoriques télévisuelles ou le formatage du regard. C'est publié chez Debock INA, qui traite de la mise en scène de l'univers par la télévision. Et vous avez aussi écrit l'an dernier 50 ans de publicité à la télévision, le consommateur, ses avatars, ses imaginaires. C'est aux presses universitaires de Rennes et ça traite entre autres justement de la mise en scène des corps masculins, féminins et du sport dans la publicité. Alors, la flamme olympique, elle continue son chemin. C'est presque un feu sacré qui viendra lancer la cérémonie d'ouverture. Les JO, ce sont des images fortes. C'est aussi un événement qui rassemble. Jean-Claude Soulage, il y a une puissance des images dans ce que nous voyons déjà depuis quelques semaines avec l'arrivée de la flamme à Marseille. Pourquoi est-ce que ça fascine autant?
Il y a une certaine... on va pas parler de religion civile, mais il y a une forme de participation des communautés. Hein, des communautés imaginées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que il y a une espèce de d'aura autour des nouveaux olympiens, hein, on va utiliser ce terme, que sont les sportifs. Hein. On s'aperçoit que dans les années 60, il y avait les stars de cinéma. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux Olympiens qui sont ces sportifs. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de religion civile qui circule. Et puis, c'est aussi une manière d'agréger des communautés, et entre autres des communautés nationales. voyez bien que vous allez pas, enfin, les Français ne vont pas regarder les matchs du Qatar contre l'Arabie Saoudite, etc. On regarde l'équipe de France. Et il y a cette espèce de constitution d'une communauté imaginée qu'est la nation. Donc il y a une réactivation en même temps de quelque chose autour de la communauté nationale. Mmh. Avec également ce que un sociologue comme Norbert Elias annonçait, c'est-à-dire une espèce de dissipation de la violence dans le social. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de catharsis avec le héros, l'extrême, l'affrontement. Et il y a une espèce de pacification, hein, une résorption de la violence. Hein. Voilà.
Alors, puisque vous parlez de catharsis, ça fait lien tout de suite avec Paul de Mont, puisque vous, c'est le monde grec qui vous intéresse. Vous diriez que justement, ces grandes cérémonies, ces processions fonctionnent comme une catharsis, justement. Peut-être dire d'ailleurs, expliquer cette idée notion, que ça vient purger justement un petit peu. Ouais. Ça vient faire vivre les émotions.
Oui, la catharsis, ça consiste à se purifier des émotions. Dans le cas des fêtes olympiques, l'aspect religieux est fondamental dans l'Antiquité. Chacun des
Dites-nous
grands
de quelle
jeux,
manière, justement, oui, oui.
Chacun des grands jeux panhelléniques à Olympie, à Corinthe, à Némée et à Delphes, était consacré à un dieu. À Delphes, c'était Apollon, à Olympie, c'était Zeus, à Corinthe, c'était Poséidon, et à Némée, c'était encore Zeus. Et ça commençait par un sacrifice au dieu, et même à toute une série de sacrifices. Et ça se terminait par une immense procession. Donc c'était un phénomène, sans aucun doute, entièrement religieux, que ces Jeux olympiques de l'Antiquité. Et religieux pour le monde grec dans son ensemble. Le fait le plus remarquable, c'est que on datait les événements d'après les Jeux olympiques. On était né sous la 25e Olympiade, la troisième année de la 25e Olympiade. Tel événement avait lieu la quatrième année de la 23e Olympiade. Donc c'était un événement qui avait un aspect social tout à fait majeur à la fois, et global, religieux, et dans la vie personnelle.
Raphaël Verchère, on voudrait vous entendre sur le caractère justement un peu sacré de ces événements. Est-ce que vous diriez que, comme l'expliquait Paul Desmonts, il y a une forme aussi de rassemblement, de religiosité quasiment autour de ces événements?
Oui, bien sûr. Pardon. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Hein. Si on se contente de regarder les signes du sport moderne et des Jeux olympiques, il y a tout un tas de signaux qui laissent penser qu'il y a quelque chose d'un petit peu religieux qui se joue. Hein. La religion, on sait que c'est quelque chose qui est assez difficile à définir. On est partagé entre différentes étymologies, mais il y a notamment cette idée de lien. Lien horizontal au sein d'une communauté, notamment. Et donc, le sport peut participer de ça. Il y a aussi cette idée de lien vertical vers une forme un petit peu de transcendance, et cette transcendance, on la retrouve à tout un tas d'emplacements dans le cadre des compétitions sportives, que ça soit par rapport aux pratiquants, où on sent très bien que ceux qui vont l'emporter sont peut-être pas faits du même bois que nous et pourraient participer presque d'une autre essence, ou même par rapport à la question du dépassement, quand soi-même, on peut être dans une forme de transcendance vis-à-vis de soi-même. Également dans certaines pratiques sportives où on va se confronter à quelque chose comme la mort, hein, on peut penser à l'alpinisme ou des choses de ce type-là. Et ça, finalement, ça a été remarqué très tôt. Hein. D'une certaine manière, Pétrarque, quand il fait son récit de l'ascension du Mont Ventoux, c'est peut-être un des premiers récits de trail sportif. Et dans ce récit, il fait totalement un parallèle entre son épreuve physique, qui est de monter en haut du Mont Ventoux, et la passion telle qu'elle a pu être vécue par le Christ, et également toute une forme de cheminement spirituel. Donc Il y a des parallélismes évidents. Cependant, il faut se méfier de faire une forme de réductionnisme un peu trop hâtif en se contentant de ces signes-là, parce que il y a quand même tout un tas de ruptures qui sont prégnantes dans le sport moderne par rapport aux pratiques corporelles qui préexistent. Et donc, c'était bien dit par Paul tout à l'heure. Ce qui marque le sport moderne, c'est justement peut-être une forme d'autonomisation par rapport à d'autres choses qui sont prégnantes dans la société, et notamment la religion. Dans l'Antiquité, le sport, il n'est pas indépendant justement de la chronologie religieuse. Et ce qui va marquer justement le sport moderne, c'est que le sport va être marqué par une forme de sécularisation, par une forme d'affranchissement du temps religieux, au point que c'est même lui qui va dicter un autre temps. Et ça, on le retrouve dans les écrits des pères fondateurs eux-mêmes, et notamment Pierre de Coubertin, qui lui était assez subtil là-dessus, qui comprenait bien que le sport qu'il constituait pouvait former une forme de religion, mais en même temps, il le dit avec ses mots, il parle de religion athlétique, et en même temps, une religion qui va s'opposer à des religions qui existent déjà. Pierre de Coubertin, il entretient un grand ressentiment, par exemple, à l'égard du christianisme, et notamment du catholicisme. Dans certains écrits, il parle du catholicisme comme étant la religion de la mort, dans des accents un peu nietzschéens.
Et justement, on y reviendra sur Pierre de Coubertin, on s'arrêtera justement sur sa philosophie en quelque sorte. Mais en tout cas, ce que je relève dans ce que vous disiez, le dépassement est quasiment un caractère transcendant des sportifs. Paul Démon, le héros grec, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec nos sportifs d'aujourd'hui ?
Alors, c'est intéressant parce que cette notion de dépassement du sportif fait qu'effectivement, le sportif qui gagne une épreuve olympique, il n'est pas comme les autres. C'est un héros. Et ces vainqueurs recevaient dans l'Antiquité des odes triomphales en leur honneur. Pindare est le principal auteur que nous connaissons, mais il y en a eu d'autres. Et ces hôtes triomphales établissaient un parallèle entre les vainqueurs et les héros d'autrefois. Il faut se représenter que dans la Grèce antique, il y avait trois niveaux en quelque sorte d'existence. Il y avait l'homme, le héros et le dieu. Et le héros se trouvait à mi-chemin entre les dieux et les hommes. Et le vainqueur, par sa victoire, s'approchait du monde des héros. Et les odes triomphales en son honneur établissaient justement des rapprochements entre le vainqueur et les héros du temps jadis, comme Héraclès, comme Ajax, etc. Et le gros problème qui était soulevé par les poètes, c'était de faire comprendre au vainqueur que certes, il se rapprochait des héros, mais il n'était pas un dieu pour autant. Et donc, il y avait une leçon morale qui était adressée au vainqueur et que résume très très bien un vers célèbre de Pindare. C'est à la fin d'une ode pour un jeune vainqueur, un certain Aristoménès, qui était un jeune garçon, qui était vainqueur à la lutte. Et Pindare termine son ode pour lui en disant « Être précaire, qu'est-ce que quelqu'un ?» Que n'est-il pas, l'homme, le rêve du nombre ? Mais quand vient la splendeur donnée par les dieux, c'est une éclatante lumière pour les hommes, un temps de douceur. Donc, attention, vous êtes dans la gloire, dans la gloire qui vous rapproche de la divinité, mais c'est la divinité qui l'a donnée, ce n'est pas vous. Oui. Vous n'êtes qu'un homme, c'est-à-dire le rêve du nombre.
Le rêve du nombre, Jean-Claude Soulage, les lumières justement des caméras du monde entier qui vont chercher à mettre en valeur ces hommes un peu hors normes, on peut le dire, mais qui restent le rêve du nombre. Est-ce que justement cette précarité, cette fragilité du sportif, à votre avis, elle a sa place dans les retransmissions ? Il peut être évoqué que ces hommes qui peut-être nous fascinent le temps d'une compétition ont leur fragilité. Vous diriez que c'est présent à l'image, cette, ce paradoxe un peu ?
Moi, je dirais que, enfin, il
ça
faudrait.
Ça n'a pas sa place, justement.
Si, ça a sa place. Mais ce que je, moi, il me semble que la grande différence entre le sport grec et le sport moderne, c'est que le sport grec, c'était un sport guerrier. enfin, je suis pas un spécialiste, hein, peut-être je fais des contresens. Hein. C'est vrai que c'était le culte du mâle. Il n'y avait pas de femme. Enfin, j'en sais rien. Il n'y a pas de femme,
il me semble. Hein, dans
du mâle, du mâle avec un accent. Oui. Hein. Voilà. Et que aujourd'hui, on voit bien que le sport n'est plus tellement un sport de combat. C'est un sport biologique, on pourrait dire. On soigne son corps ou on essaie de dépasser son corps, les limites du corps. Et puis il y a la femme. Ça veut dire que ce héros s'est féminisé complètement. C'est-à-dire que on est en train d'atteindre presque une parité. C'est-à-dire que la sportive peut exister. Alors que, je sais pas, dans les années 50, vous voyez, les retransmissions des Jeux Olympiques, j'ai rarement vu, il me semble, de femmes mises en scène. Même si elles existaient, si elles étaient là, elles sont pas restées dans la mémoire. Donc ça veut dire que ce sportif tel qu'il était jusqu'à présent, c'était un sport de mal, du mal.
Hein. Alors, avant qu'on poursuive sur la question du féminin, ouais. Paul Demont, je vous fais réagir sur justement le sportif, l'athlète qui va au combat. Il se trouve que justement, ça a été une des critiques opposées aux sportifs, le fait qu'ils étaient parfois inutiles à la cité.
Ben oui, c'est-à-dire que il y a tout un débat et Platon par exemple l'affronte tout à fait en disant qu'est-ce que c'est que le courage? Est-ce que vraiment le fait de participer à des Jeux olympiques, est-ce que le fait d'être un lutteur extraordinaire, est-ce que ça vous donne plus de courage pour autant? Et sa conclusion c'est que non, c'est que le courage c'est tout à fait autre chose, ça implique bien beaucoup d'autres aspects. Donc le fait que le sport soit vraiment un entraînement pour la guerre, ça n'est pas forcément une idée partagée. Et d'ailleurs, les sportifs s'entraînaient au gymnase. Et le gymnase, le mot gymnase, ça veut dire l'endroit où on est nu, gymnos, c'est-à-dire sans armes. C'était l'endroit où on luttait sans vêtements, sans armes, et où on faisait montrer, où on montrait son corps justement, son corps nu. Alors c'est vrai que vous avez tout à fait raison que les femmes étaient quasiment exclues. Il y avait quelques jeux pour les femmes, mais presque pas. Il y avait des concours quelquefois pour les femmes, mais très très peu.
Alors ce matin, vous l'entendez, on parle des Jeux Olympiques, on se demande si c'est un moment sacré, si tous ces moments qui nous rassemblent, le relais de la flamme, la grande cérémonie, les podiums, les célébrations, est-ce que c'est une sorte de religion? On en discute avec nos invités et puis bien sûr avec vos témoignages. Est-ce que ces images vous fascinent des Jeux Olympiques? Pourquoi d'ailleurs? Est-ce que ces événements vous rapprochent de votre pays, de vos sports préférés? Est-ce que vous arrivez à faire ce lien également entre ces célébrations et la religion? Vous témoignez au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et Madeleine, on continue avec nos trois invités, Paul Demont, Jean-Claude Soulages et Raphaël Verchères.
Raphaël Verchères, on parlait de ces sportifs, ces héros. Est-ce que vous diriez que leur mérite est mis en avant? Et si c'est pas leur mérite, qu'est-ce qui aujourd'hui est valorisé dans les récompenses qui leur sont données?
Oui, alors la question du mérite, elle est éminemment complexe hein, par rapport à cette question du sport, parce qu'on peut la comprendre selon deux acceptions très différentes, voire opposées. Il y a un premier sens du mérite qu'on pourrait appeler le mérite rétributif. Ça consiste à applaudir quelqu'un à partir du moment où cette personne possède les compétences requises pour accomplir une performance. Et peu importe finalement si elle est responsable ou pas de cette performance. Par exemple, quelqu'un qui aurait tous ses points pour le bac, même si cette personne n'a pas travaillé pour ça, bah, elle mériterait son bac. Et à l'opposé, il y aurait plutôt une définition du mérite qui serait ce qu'on pourrait appeler le mérite moral. Le mérite moral, ça va désigner les efforts qu'on accomplit pour essayer de atteindre un certain niveau de performance. Et parfois, même peu importe si on atteint ce niveau dans les faits ou pas. Et donc, ce cas-là, quelqu'un qui aurait travaillé toute l'année pour avoir son bac, mais qui échouerait, bah, il mériterait d'avoir son bac. Alors, ce qu'on appelle méritocratie, c'est la tentative de joindre ces deux dimensions du mérite ensemble et de faire comme si, bah, finalement, c'était ceux qui travaillaient le plus qui allaient réussir le plus. Hein. Et le sport, il joue un rôle là-dedans pour essayer de faire comprendre cette idée, pour essayer de faire que les gens y croient. Mais finalement, il y a toute une histoire là-dedans, parce que quand le sport moderne naît fin 19e, début 20e, comment est-ce qu'on se représente la réussite sportive ? On se la représente essentiellement par rapport à la question de ce mérite rétributif, c'est-à-dire que ceux qu'on va applaudir, bah, ça sera les plus forts, et on a conscience que s'ils sont plus forts, c'est parce qu'ils sont sans doute nés avec quelque chose en plus. Les termes qu'on emploie à l'époque, ils sont assez symptomatiques, parce que Coubertin et même les gens qui le critiquent ou les gens qui sont d'accord avec lui vont désigner, vont... décrire le sport comme étant une aristocratie. Et donc, c'est des valeurs aristocratiques fin 19e, début 20e, que l'on voit dans le sport. Et donc, tout au long du 20e siècle, il y a un petit peu un glissement qui voit la représentation du sport totalement renversée à partir des années 60, où ce qu'on va voir, c'est davantage un champion qui travaille plutôt qu'un champion qui se contente qui se donne la peine de naître, hein, pour un peu paraphraser Beaumarchais. Et donc, ça pose tout un tas de problèmes, parce qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on applaudit au sommet du podium. Est-ce qu'on applaudit simplement quelqu'un qui a eu simplement un privilège de naissance physiologique, mais également social ou même psychologique, ou est-ce qu'on applaudit vraiment la volonté, l'abnégation du sportif, en fait, hein. Tout ça, ça s'entremêle pour le meilleur et pour le pire.
Alors, ce que vous soulevez là, c'est aussi la question de l'ascétisme et de l'effort, l'entraînement, l'idée que cette médaille, on la décroche vraiment après des sacrifices. Paul Démon, les sacrifices dans l'Antiquité, et cette question de l'effort, et du mérite surtout, est-ce qu'elle a évolué au fil du temps ?
Oui, sans aucun doute. L'objectif aristocratique, hein, qui vient d'être signalé, repris par Coubertin et par d'autres, hein, est résumé par un vers de l'Iliade. Hein, être toujours le meilleur et dépasser tous les autres. Hein. C'est ça l'objectif, hein, et c'est très clair. Et c'était un objectif éducatif, en quelque sorte, hein, qui était destiné non seulement aux vainqueurs, mais à tous ceux qui lisaient les odes, à toute l'élite des cités grecques. Hein. Et ces civilisations aristocratiques, peu à peu, se sont rendus compte que pour gagner, il suffisait pas d'être le meilleur de naissance, mais qu'il fallait s'entraîner. Et s'entraîner énormément. Le jeune Aristoménès, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vaincu à la lutte à Delphes, eh bien, il a été vainqueur dans 5 concours. Et il avait 2 oncles qui ont été vainqueurs à Olympie. Autrement dit, c'était des familles qui passaient leur temps à s'entraîner. Hein. Et peu à peu, l'entraînement est devenu une affaire de professionnels. C'est-à-dire que les athlètes, sous la conduite d'un quelqu'un qui s'appelait le pédotribe, étaient soumis à un régime de vie très différent des autres. Un régime de vie qui a été codifié d'ailleurs par la médecine antique d'une façon assez peu scientifique, qui consistait pour les lutteurs en particulier à leur faire manger de la viande énormément. Hein, on les bourrait de viande, hein, pour qu'ils deviennent, pour que leur musculature soit la plus grosse possible. Et il y avait aussi un régime très très complexe d'entraînement, de course, de régime sexuel aussi, abstinence sexuelle, surveillance extrêmement précise, qui fait que la vie de ces pauvres athlètes n'était pas si facile que ça. Hein. On a pu quelquefois ridiculiser, hein, c'est Épictète, là, un des maîtres du stoïcisme, il dit « je veux être vainqueur d'une épreuve olympique, mais réfléchis à ce qui est aux conséquences, hein. Tu seras forcé de manger de force, renoncer aux pâtisseries, t'entraîner à l'heure prescrite, dans la chaleur, dans le froid, ne pas boire d'eau, ne pas boire de vin quand on aura envie, te livrer à ton maître comme à un médecin, ensuite te lancer dans un concours, te démettre le bras, te tordre la cheville, avaler toute la poussière des prises, être fouetté parfois, et après tout ça, être vaincu. Hein? Donc l'image de l'athlète n'était pas forcément une image d'athlète glorieux, triomphant, pour, en tout cas pour l'intelligentsia.
Oui, c'est une image qu'on voit, on la comprend en fait, l'entraînement, elle est perceptible un peu, j'allais dire, en arrière-plan. Jean-Claude Soulages, c'est peut-être moins dit aujourd'hui, mais on comprend qu'il y a tout un entraînement derrière. Ou est-ce que justement, on cherche à valoriser cet entraînement, y compris lors des retransmissions?
En un mot?
Oui, oui, oui. Enfin bon, le sport moderne n'est peut-être pas le sport ancien, c'est-à-dire que on est vraiment tourné autour de l'effort physique et puis la santé, hein. Et puis il y a également d'autres normes qui circulent dans la télévision, on va dire, cette espèce de retransmission où on a un agenda carrément mondial, c'est-à-dire le sport va imposer une semaine de télé à 2 milliards d'individus. Donc il y a vraiment un agenda qui est complètement verrouillé, quoi.
Et on va continuer d'en parler dans un instant avec vous trois, Raphaël Verchère, Paul Demont et Jean-Claude Soulages, avec vous Madeleine, et puis vos appels, vos réactions 04 72 38 20 23. Est-ce que vous faites un lien entre les Jeux Olympiques et la religion? Pourquoi pas, on va se le dire franchement. Est-ce que ces événements vous rapprochent également de votre pays ou de vos sports préférés? On vous attend avec vos témoignages.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense, donc j'agis. On va écouter de la musique, et évidemment, on va écouter une très belle chanson de Françoise Hardy, qui est décédée hier à l'âge de 80 ans. C'est son fils Thomas Dutronc qui a annoncé ça sur Instagram. Françoise Hardy qui s'est battue pendant de très très longues années, depuis 2004, hein, contre un premier cancer et puis un deuxième qui s'est déclaré en 2019. Voici une chanson qui est pas très connue, mais qui est pourtant très très belle, où elle parle de sa maladie, Le Large, tout de suite. Voici Françoise Hardy.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai. Aucun requin, aucun air triste. Aucun regret, aucun séisme. qu'une langue de bois. Aucun chaos, aucun, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
Voilà, Françoise Hardy qui a pris le large. Et cette chanson a été très très belle, extraite de son 24e album Personne d'autre, sorti en 2018.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
À quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Paris, ce matin, on se demande si cet événement est un moment sacré entre le relais de la flamme, les podiums, les célébrations. Est-ce que finalement ça ressemble pas à une sorte de religion? On en discute avec nos trois invités. Vous les entendez, Paul Demont, je rappelle que vous êtes professeur émérite de la Sorbonne Université, Raphaël Vercher, professeur de philosophie dans l'Académie de Lyon, et Jean-Claude Soulages, sémiologue des médias et professeur émérite à l'Université Cité Lyon 2. Je vous lis un message de Jean-Jacques, il nous a laissé ça par mail. La place donnée aux Jeux Olympiques est tout à fait surfaite et exagérée. C'est une manifestation qui est reprise par les spécialistes marketing et les politiques pour se faire une image positive auprès du public. Les partenaires de ces Jeux sont des opportunistes. Rien n'est sacré dans ces Jeux, alors qu'il faut verser 150 000 euros pour voir passer la flamme dans sa commune. Je pense que Jean-Jacques ne va pas regarder, mais c'est intéressant d'entendre ça, Jean-Claude Soulages. Pour lui, ça n'a rien de sacré. Finalement, c'est juste de l'opportunisme, et surtout, c'est à se demander si ces rites finalement ont pas un coût un peu exagéré.
Ça c'est une question difficile, hein, parce que les médias ont pris une importance considérable. Vous voyez que il y a presque une gestion du social. Vous voyez bien que même au niveau politique, vous voyez bien que depuis une semaine, là, enfin depuis dimanche, hein, c'est le souk intégral au niveau des médias, et il y a vraiment une activité, un activisme des médias qui suivant les domaines, hein, c'est la politique ou le sport, mais ça veut dire aussi qu'il y a de l'argent. Ça veut dire que le sport, depuis les années 50, c'est devenu une masse considérable d'argent avec les télévisions qui sont là, et que c'est vraiment une affaire de marketing, hein. Il y a une occupation, et c'est pour ça que le sport, l'important du sport, c'est ça, c'est-à-dire s'il y a de l'argent, ça devient important, hein. Il y a une espèce de cercle vicieux, hein, à ce niveau-là, hein. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, ça veut dire qu'il y a une fenêtre, hein, pour le sport, et à un moment donné, dans ces Jeux Olympiques, il y a sans doute des normes, des modèles, des attitudes. Par exemple, il y a des femmes qui vont jouer en short. Donc ça peut être quelque chose qui va se passer dans certains pays en disant « Tiens, les femmes peuvent faire du sport », etc. Il y a tout un tas de choses qui circulent comme ça. Il y a de l'arbitre aussi, c'est-à-dire qu'il y a des normes sur le jeu, il y a des règles. Donc, je ne veux pas dire que c'est l'état de droit, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a un certain nombre de normes qui circulent derrière toutes ces images. Il ne faut pas penser que c'est simplement du marketing.
Raphaël Vercher, la place de la gratuité, puisqu'on dit que ça a un coût, mais en réalité, ce que viennent chercher les gens, c'est cette communion, c'est cet esprit de partage, c'est parfois l'encouragement, une forme de fraternité, on pourrait presque dire. Est-ce qu'il y a une place pour la gratuité dans ces événements dans lesquels beaucoup d'argent sont brassés et brassés?
Oui, bien sûr. En apparence, il y a beaucoup d'argent, il y a du marketing, il y a des millions qui se diffusent là-dedans. Mais comme ça a été dit, ça épuise pas tout ce qu'on peut dire du phénomène, hein. Ce serait les critiques aujourd'hui qui reprochent à Noël d'être une fête commerciale ou Halloween d'être également quelque chose de commercial. Ok, il y a sans doute ça dedans, mais ça va au-delà de cette simple portée économique. Et là-dessus, je pense que historiquement, il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que le sport naît fin 19e, début 20e. On est quand même dans un contexte, hein, si on reprend un peu les travaux de Max Weber, d'une société qui se sécularise, une société de la mort de Dieu, pour reprendre les termes de Nietzsche. Et il y a quelque chose qui correspond à un besoin, effectivement, d'une forme de sacralité un petit peu sécularisée. Et le sport, il s'inscrit à ce moment-là, en fait. Hein. Il y a toute une forme de, ça a été déjà dit, de religion un peu sacralisée là-dedans. Alors, par rapport à la question de la gratuité, ça a été central dans les débats aux origines du sport moderne. Hein. Et là-dessus, il y a tout un tas d'enjeux hein, qui sont présents. Du côté de Coubertin et des gens qui ont défendu le sport à cette époque, effectivement, le sport, il devait être totalement amateur. Il fallait s'y livrer d'une manière qui soit désintéressée. Et là, en apparence, ça correspond à un idéal un petit peu aristocratique, qui est celui effectivement d'une forme de désintéressement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un enjeu un peu de lutte des classes derrière. Parce que fin 19e, début 20e, les seuls qui pouvaient finalement se payer le luxe, si j'ose dire, de la pratique sportive amateurs, c'était les aristocrates justement. Ceux qui étaient issus d'un milieu plus populaire, ils pouvaient pas manquer des journées de travail comme ça, et c'est pourquoi pour eux c'était un enjeu en fait, le professionnalisme pour pratiquer. Et donc fin 19e, début 20e, l'objectif qui était même assumé par certains de défendre l'amateurisme, c'était d'exclure les classes populaires pour que le sport demeure celui de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Alors après, évidemment, ça s'est ouvert tout au long du XXe siècle. Toute l'histoire du sport au XXe siècle, c'est l'histoire de sa démocratisation. On a parlé des femmes tout à l'heure. Fin 19e, début 20e, le sport, finalement, c'est quelque chose qui va s'adresser uniquement à des jeunes hommes blancs, bourgeois, citadins, et on pourrait même dire hétérosexuels, en bonne santé, européens. Et ce modèle, qui était un petit peu exclusif, explose pendant tout le long du XXe siècle pour inclure de plus en plus de personnes et qui se fondent, effectivement, il faut le rappeler, vous avez raison, sur quand même une forme de gratuité hein, par rapport aux gens qui vont participer aux Jeux Olympiques cette année. La plupart sont loin d'être millionnaires. Hein. Il y a quelques personnalités qui cachent la forêt du sport il y en a beaucoup, par exemple, qui sont proches du seuil de pauvreté ou sous le seuil de pauvreté et qui doivent payer pour pratiquer plutôt que l'inverse. Hein.
Vous parliez tout à l'heure, Raphaël Verchère, du sacrifice, de la souffrance aussi. Donc là, on peut dire que c'est universel. Je dirais argent par argent, c'est quand même une souffrance et ce sont des entraînements intensifs. Vous avez fait le rapprochement avec la passion du Christ. Ça m'interpelle. Est-ce que vous pouvez poursuivre ce développement?
Oui, bien sûr. Là, c'est des cheminements. Alors, quand on pratique le sport à la première personne, les finalités qu'on va donner à sa pratique, elles vont être évidemment très différentes d'un individu à un autre. On a parlé de la santé. Effectivement, ça peut être un enjeu. On peut parler de la question de la compétition. Ça peut en être un autre. Mais pour certaines personnes, il y a aussi quelque chose d'un petit peu spirituel qui peut totalement se dessiner. Et l'analogie entre l'athlète et cette quête spirituelle, c'est des choses. J'ai cité Pétrarque tout à l'heure, où c'est explicitement travaillé. Mais on le trouve déjà dans l'Antiquité avec les premiers chrétiens qui vont de même filer la métaphore sportive pour parler du travail spirituel qu'il y a à faire sur eux pour essayer de s'élever. On le trouve chez Démétrius, par exemple, mais même chez Saint Paul, en fait. Hein, Saint Paul qui va faire une analogie entre la foi et la course à pied, en fait. Hein. Donc ça, c'est totalement visible, en fait. Hein. Pourquoi ? Parce que le sport va réclamer une forme d'ascèse pour essayer d'aller vers l'excellence. Et dans le cheminement spirituel qu'on peut se donner, il y a aussi cette forme d'ascèse hein, en fonction des religions qui va être prégnant. Et donc là, il y a tout un tas de travaux en sociologie du sport qui ont montré des choses assez intéressantes hein, dans la continuité de ce qu'avait déjà fait Max Weber sur les parentés entre esprit du capitalisme et éthique protestante. Et on s'est aperçu, par exemple, que alors c'était dans les années 60, que les protestants étaient surreprésentés dans certains sports qu'on pourrait appeler les sports ascétiques, comme l'athlétisme, comme la natation.
Je vous lis un message d'Elisa qu'on a reçu par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Elle nous dit « Ravi de l'intérêt de la médiatisation grandissante pour les Jeux paralympiques ». C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. « Summum du dépassement de soi à l'image de performance d'assets ou de saints, mais des saints laïcs ». Je trouve ça là aussi très pertinent. Paul Demont, comment vous réagissez à ce message ? Là, ça touche à l'inclusion pour le coup.
Alors tout à fait, oui, mais alors là, c'est on est dans un autre monde par rapport à l'Antiquité, hein, l'idée de jeu.
Allez, on traverse les siècles.
Oui, on voyage.
De jeu paralympique était complètement absente dans l'Antiquité, hein, c'est une période où seuls les gens en parfaite santé, en parfaite pouvaient concourir.
C'était le culte du corps, il faut le redire. C'est là où le christianisme a aussi apporté une autre dimension dans ce monde grec. C'était quoi le choc, en fin de compte ?
On vient de parler de la lettre de Paul aux Corinthiens, qui est tout à fait caractéristique. Ne savez-vous pas que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais qu'un seul reçoit le prix ? Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tout athlète se prive de tout. Ils le font pour recevoir une couronne corruptible, mais nous, pour une couronne incorruptible. Moi, c'est ainsi que je cours, c'est pas sans fixer de but. C'est ainsi que je fais de la lutte, mais c'est pas en frappant dans le vide. Je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Autrement dit, la métaphore...
Vous citiez saint Paul en première lettre aux Corinthiens. Oui,
oui. L'image de... qui est utilisée, l'image de l'entraînement athlétique, est complètement dévoyée ou transformée. C'est un ascétisme de l'âme, pas du corps. Le corps doit être traité durement, il doit être l'esclave pour que l'on puisse se rapprocher de Dieu. Et ça, c'est une attitude assez générale des premiers chrétiens qui parlaient de la vaine gloire qu'on cherche au stade. La vaine gloire, elle n'était pas propre aux premiers chrétiens. Les intellectuels, en général, trouvaient que passer son temps à s'entraîner, c'était une vie malheureuse. Et il y a même un médecin, le médecin Galien, qui a proposé une nouvelle étymologie pour le mot athlète. Les athlètes, en principe, ce sont ceux qui cherche Athlon, le prix de la victoire, en luttant. Mais Galien dit non, les athlètes, ce sont ceux qui sont malheureux. Et c'est en grec, c'est athlios. Ce sont des misérables.
Alors, si on poursuit justement avec ces deux mondes, en quelque sorte, est-ce que vous diriez, Raphaël Verchère, que vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, cette autonomisation des sportifs, le fait que ce soit sécularisé, ça a aussi changé la vision qu'on pouvait avoir du sport ? Comment intégrer finalement les divinités autrefois, mais aujourd'hui peut-être Dieu, dans sa pratique sportive, dans ses événements ? Comment les vivre autrement ?
Oui, il y a tout un tas de parallèles qu'on travaille depuis tout à l'heure qui laisseraient penser que le sport pourrait occuper une place un petit peu similaire à la religion d'un point de vue au moins fonctionnaliste. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que tout un tas de critiques du sport marxistes, freudo-marxistes, à partir des années 60, ont pu se développer, où on reprenait finalement les critiques de Marx à l'endroit de la religion pour les retourner vers le sport. Marx voyait dans la religion l'opium du peuple et la théorie critique contemporaine qui se déploie depuis les années 60 voit dans le sport une forme d'opium du peuple en fait et qui va voir justement que dans une société sécularisée, c'est plus la religion traditionnelle qui va s'occuper de crétiniser les masses, on reprend leur terme, mais ça va être le sport. Mais une fois qu'on a dit ça...
Vous iriez jusqu'à parler d'idole ?
Alors oui, justement, c'est il y a tout un tas de points qui permettent de faire des analogies et peut-être voilà la révérence qu'on peut avoir vis-à-vis de certains sportifs qui peut se tourner, qui peut être assimilé à la révérence qu'on peut avoir vis-à-vis de saints. Pour prendre juste un exemple, par exemple Maradona en Argentine, il y avait une forme de sacralité du personnage au point qu'il y a une église maradonienne en fait qui s'est développée et c'est pas juste une blague en fait. C'est-à-dire que les gens qui se rassemblent autour du culte de Maradona, il y a une sincérité là-dedans, effectivement, qui ressemble à une forme de peut-être de néo-paganisme, mais en tout cas qui est présente. Après, il y a quand même une limite à cette assimilation, sport-religion. C'est que la religion, elle va quand même traiter, alors pour reprendre un peu les distinctions de Kant, d'objets un petit peu métaphysiques, comme la question de Dieu, justement, savoir s'il y a un créateur ou s'il n'y en a pas, la question de l'âme, savoir si l'âme est immortelle ou si elle n'est pas, s'il y a un commencement du monde ou s'il n'y en a pas, également la question du libre-arbitre. Et là-dessus, il faut bien admettre que le sport reste assez silencieux. Il y a sans doute une liturgie, il y a sans doute des rites, il y a sans doute des mythes qui sont présents dans le sport, mais qui restent quand même peu bavards sur ces objets qui sont quand même centraux dans les religions contemporaines. Enfin, les religions de contemporaines, mais de tout temps même.
Jean-Claude Soulages, idole ou vertu, le sport, est-ce que ça cultive peut-être un intérêt qui prend trop de place, ou au contraire, vous diriez que c'est l'occasion et c'est le lieu pour développer les vertus ?
C'est difficile d'avoir une vision macro un peu du sport, hein. C'est-à-dire que on peut, par exemple, à partir des années 60-70, on voit apparaître cette espèce de médiatisation du sport qui est assez importante. Alors, on peut faire des corrélations, alors qui sont simplement des corrélations. On peut dire que, par exemple, dans les années 70, le jogging apparaît aux États-Unis. Mais on peut dire que cette corrélation, on peut l'établir avec la montée du féminisme. C'est-à-dire, les hommes, pour exprimer ou sublimer leur masculinité ou leur virilité qui n'a plus de poids, hein, qui est complètement vide, eh bien, ils tournent en rond. Et ils font du jogging. Et d'ailleurs, l'inventeur du jogging, je me souviens plus de son nom, il meurt d'une crise cardiaque à 40 ans. Hein. Donc, alors, on voit que ce sport, c'est une espèce on refoule la violence, on refoule le machisme, enfin le machisme, hein, quelque chose qui est autour d'une vision d'une civilisation qui était construite autour du guerrier, hein, du mâle guerrier. Hein, et il y a ça qui est en train de se dissiper petit à petit. Hein, donc il me semble que c'est ça. Et l'autre chose qui est importante, c'est le refus de la violence. Alors je vais prendre simplement un parallèle entre le rugby et le foot. Le rugby, c'est un sport qui est hyper réglementé, avec des normes et un arbitrage très dur. C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas le rugby, ils passent leur temps à attendre que l'arbitre décide un truc. Ça s'arrête toutes les deux minutes, c'est insupportable ce truc, c'est au ralenti. Les trois quarts du match sont au ralenti, on comprend rien. Bon, voilà. Le foot, c'est direct et c'est violent. Et il n'y a pas de règles. Enfin, il n'y a pas de règles.
Il y a des règles.
Pour moi, il y a des règles, mais c'est par rapport au rugby, vous voyez, le rugby, alors là, sur une mêlée, il y a 50 possibilités de faire une faute, etc. Eh bien, les spectateurs du rugby, c'est pas des hooligans. Et les spectateurs du foot, souvent, c'est des hooligans. Donc, ça veut dire que la violence, elle est complètement étouffée par les normes et l'arbitrage. Cette espèce d'événement collectif du sport, hein, d'équipe, hein, moi j'ai rarement vu des types du rugby qui se tapaient dessus, quoi, à la sortie du match, hein, parce que les règles sont là, l'arbitrage est là, et il y a de la violence, mais elle est complètement étouffée. Alors que le foot, depuis qu'il y a des caméras, justement, on s'aperçoit qu'il devient de plus en plus violent, quoi. Hein, puisqu'on peut vous montrer exactement comment on a foutu un coup de pied à tel type, etc., etc. Hein. Voilà. Ouais. Donc, il me semble que c'est complexe, hein, d'avoir une vision macro de l'évolution du sport moderne.
Alors, on va terminer avec une dernière question que je vous pose à chacun d'entre vous. L'héritage social ou spirituel des Jeux Olympiques, qu'est-ce que chacun garde après les Jeux Olympiques ? Est-ce que Paul Demont, vous diriez qu'il y a un véritable héritage social et même peut-être spirituel des Jeux Olympiques, une fois qu'ils sont passés dans le pays, ou en tout cas qu'ils se sont déroulés dans l'année ?
Ben, il y a un moment... c'est sûr, quand on voit, alors là pour le coup je suis simplement un téléspectateur lambda, quand on voit les images de l'arrivée de la flamme à Marseille, il se passe quelque chose, c'est certain, de l'ordre de la on peut parler ça d'une sorte de communion civique, hein, de réunion pour une foi, un peu fictive, mais tout de même efficace. Et là, on rejoint certainement des sensations qu'ont pu éprouver les Grecs des cités quand l'un de leurs citoyens était vainqueur aux Jeux Olympiques.
Raphaël Verchère, une communion civique, vous y iriez jusque-là? Ou est-ce que d'ailleurs, d'après vous, ça va même encore plus loin et ça peut sensibiliser certains à ce qui est plus grand, ce qui nous dépasse finalement?
Oui, je pense qu'effectivement, ça va plus loin. L'héritage des Jeux Olympiques, on est déjà dedans, et ce, depuis que Coubertin a gagné son pari de rénover les Jeux Olympiques et de les imposer à la société. Hein. Qu'est-ce que c'était l'objectif de Coubertin avec les Jeux Olympiques? C'était surtout de faire admettre le principe du sport à la société, parce qu'il était convaincu de ses vertus pédagogiques. Et il craignait que s'il n'y avait pas une émulation internationale, bah, les gens refusent de s'y convertir. Et force est de constater que bah, le sport, il s'est diffusé dans la société, dans tous les champs, au point que bah, même dans des secteurs de la société qui sont à première vue éloignés du sport, bah, il y a des valeurs sportives qui ont diffusé, qui sont celles du travail, qui sont celles de la soumission à une forme d'ordre qu'on a accepté parce qu'il résulte d'une forme de compétition. Et donc, c'est en ce sens-là que bah, on est peut-être tous devenus des sportifs, et même ceux qui ne le pratiquent pas. Et donc, il y a bah, cette forme de, voilà, d'éthique, plus que de spiritualité sportive, à laquelle bah, on est presque contraint d'adhérer, puisque la société s'y est convertie.
Est-ce que vous diriez que finalement ces moments de communion qui n'ont pas l'occasion d'être vécus autrement dans l'année pour ceux qui ne se rendent pas justement à des offices ou à des liturgies religieuses, est-ce que ça peut leur faire naître le goût que quelque chose d'autre est possible à vivre ensemble, quelque chose de qui ne serait pas commercial, quelque chose qui serait justement de l'ordre du partage?
Bah, sans doute, hein, c'était encore une fois le pari de Coubertin quand il rénove les Jeux Olympiques. Il y a cette métaphore, cette idée qu'on retrouve souvent dans les écrits de Coubertin, que le sport il est pyramidal, que en haut il y a les athlètes olympiques et qu'il faut qu'il y ait des athlètes olympiques d'élite pour que même la masse décide de pratiquer. Donc selon lui, il y a comme une forme de ruissellement, pour reprendre cette métaphore désormais bien connue. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour lui, cette diffusion de la spiritualité sportive.
Jean-Claude Soulages, que dites-vous de la communion civique et puis d'un héritage, de ce qui reste après, finalement, au niveau de ce qui est vécu entre eux, cet élan collectif?
Moi, je dirais qu'il reste quand même une espèce d'inertie nationale. C'est-à-dire que même s'il y a une vision universelle qu'on retrouve chez Coubertin, il y a quand même une vision des traces du nationalisme. Et je vous donne une anecdote avec mes étudiants. Je leur demandais à la fin des derniers Jeux Olympiques, quelle est la nation qui a ramassé le plus de médailles? Alors les États-Unis, la Chine, je me souviens plus. Et je leur dis non, c'est l'Europe. Le problème, c'est que l'Europe, c'est pas une nation. Hein? Donc, ça veut dire que ça intéresse pas grand monde que l'Europe figure comme un espèce de qualificatif de l'exploit sportif. C'est simplement l'exploit français, l'exploit allemand, etc. Voilà.
Donc finalement, on dépasse, à la fois on dépasse son horizon, mais en fin de compte, on reste quand même le supporter d'un héros proche de chez soi. C'est la question de la proximité au final.
Ben oui. Ça veut dire que à un moment donné, eh bien, il y a toujours cette espèce d'ancrage. Alors, on va peut-être dire comme Norbert Elias que c'est la disparition des conflits petit à petit et de la violence inter-État, ce qui n'est pas tout à fait établi hein, aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de pacification. Hein. C'est-à-dire que c'est des
une
combats.
Trêve, une trêve.
Voilà, voilà.
Et cette trêve, on espère qu'elle va se poursuivre. Paul Desmonts, vous diriez aussi que c'est un appel à la trêve, peut-être ces Jeux Olympiques. En tout cas, elle existait auparavant pour les athlètes. Ce sera votre dernier mot.
En un mot, ouais.
Oui, c'est effectivement. Il faut espérer en tout cas. Il faut l'espérer.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin nous parler de ces Jeux Olympiques, mais pas tout à fait sous l'angle habituel des performances. Alors merci Paul Demont, je rappelle que vous êtes professeur émérite de la Sorbonne Université, auteur de La cité grecque archaïque et classique et l'idéal de tranquillité. C'est publié aux Belles Lettres, comme votre autre ouvrage Aias Ajax, publié également récemment. Et puis merci aussi Jean-Claude Soulages, sémiologue des médias et professeur émérite à l'Université Lyon 2, membre du Centre de recherche Max Weber, auteur de Rhétorique télévisuelle ou le formatage du regard, publié chez De Bock INA. Et puis merci aussi à vous Raphaël Verchère, professeur de philosophie dans l'Académie de Lyon, et vous consacrez vos travaux à l'éthique du sport. Vous avez récemment publié Sport émérite, histoire d'un mythe et philosophie du triathlon, avis à tous les sportifs, aux éditions du Volcan. Merci.
Merci Madeleine. C'était un bon entraînement ce matin ensemble. Et
on va continuer dans la foulée, j'ai l'impression.
Oui, la foulée, c'est lequel le dire.
Restez sur la piste.
La piste de danse, en l'occurrence, les danses traditionnelles qu'on va vous faire découvrir avec, bien sûr, vos appels. Venez nous présenter vos danses proches de chez vous au 04 72 38 20 23. Tout de suite.